VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 13 septembre 2017. Couvre-feu dans le sud-est du Nigeria après des heurts entre l'armée et des indépendantistes biafrais. Échauffourée en Côte d'Ivoire entre étudiants et forces de l'ordre. Le Conseil de sécurité se penche sur la crise des Rohingyas en Birmanie. La Corée du Nord a annoncé accélérer ses programmes militaires suite aux sanctions onusiennes. Et le passage de l'ouragan Irma a fait au moins 12 morts en Floride selon un nouveau bilan. L'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Au Nigeria, un couvre-feu a été décrété pour 3 nuits dans le sud-est du pays après des heurts entre l'armée et des indépendantistes biafrais. Abdourahmane Dia.
L'objectif de ce couvre-feu est d'apaiser les tensions grandissantes entre l'armée et les partisans Igbo pour un Biafra indépendant. Le gouverneur de l'État d'Abia a demandé le respect des lois et l'arrêt des confrontations avec les soldats et autres forces de sécurité. Le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra réclame l'indépendance de cette région à grande majorité Igbo. Dimanche, ce mouvement affirmait que 5 de ses membres avaient été tués, des propos aussitôt démentis par l'armée, les qualifiant de fictionnels et très éloignés de la réalité. Le chef de file du mouvement indépendantiste Nnamdi Kanu est poursuivi pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État. Il est actuellement en liberté provisoire sous caution en attendant le début de son procès à Abuja qui devrait avoir lieu le mois prochain. Le pouvoir fédéral voit dans cette série de contestations une menace pour l'unité du Nigeria, alors que la guerre civile de 1967 à 1970 au Biafra reste un souvenir douloureux et un sujet tabou dans le pays.
En Côte d'Ivoire, des échauffourées ont eu lieu ce mercredi entre forces de l'ordre et étudiants mécontents de la hausse des droits d'inscription dans le quartier de Cocody à Abidjan. Des étudiants ont placé des pneus et autres obstacles sur des voies de circulation et lancé des projectiles sur les forces de l'ordre déployées en nombre qui ont riposté en faisant usage de gaz lacrymogène. La Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire fait état de plusieurs blessés. Le président de l'Assemblée nationale togolaise a annoncé que les parlementaires commenceraient dès vendredi à examiner le projet de réforme constitutionnelle réclamé par l'opposition sur la limitation des mandats présidentiels. L'opposition réclame depuis 10 ans de limiter à 2 le nombre de mandats et un scrutin à 2 tours. Des manifestations massives ont eu lieu début septembre pour demander ces réformes et le départ du président Fornia Singbe. 6 membres du groupe Al-Shabaab ont été tués dans une attaque aérienne américaine ce matin dans le sud de la Somalie, selon une déclaration du Pentagone. Gabi Dorsil nous en dit plus.
Il s'agit de 3 raids aériens menés à environ 260 km au sud de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, selon la déclaration du commandement Afrique des forces armées des États-Unis. Mais aucun autre détail n'a été fourni. Ces frappes de précision ont été lancées en coordination avec le gouvernement fédéral somalien, a précisé le communiqué. L'attaque de ce mercredi est la 12e du genre, annoncée depuis le 1er juillet par les forces américaines contre le groupe terroriste lié à Al-Qaïda. La semaine dernière, les États-Unis ont déclaré avoir mené 2 frappes de drones qui ont tué 4 membres d'Al-Shabaab. Lundi, au moins 16 personnes ont été tuées, la plupart des soldats d'un gouvernement régional, lorsque des militants Shabaab ont attaqué la ville somalienne de Beledawo, frontalière du Kenya. Le président Donald Trump a autorisé en mars dernier le Pentagone à lancer des opérations antiterroristes par voie aérienne ou terrestre pour soutenir le gouvernement somalien. Jusque-là, les actions de l'armée américaine devaient être validées par différentes agences à un très haut niveau. Al-Shabaab tente depuis 2006 de renverser le gouvernement et d'imposer une forme stricte de la loi islamique en Somalie.
Le bureau de l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi a été cambriolé dans la nuit de mardi à mercredi à Bujumbura. Des hommes armés se sont introduits de force dans les bureaux et ont menacé les agents de sécurité, selon un fonctionnaire de l'ONU. Cette source n'était pas en mesure de préciser si des documents ou du matériel ont été dérobés. Deux soldats égyptiens et six djihadistes ont été tués dans une tentative d'attentat suicide suivie d'un accrochage dans le nord du Sinaï. Les militaires ont réussi à déjouer une opération terroriste visant un checkpoint. S'est félicité le colonel Tamer El-Rifai dans un communiqué. L'un des djihadistes portait une ceinture explosive mais a été tué par les forces armées, a-t-il affirmé. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Le procureur de la Cour pénale internationale a réitéré son appel pour qu'un commandant militaire libyen faisant l'objet d'un mandat d'arrêt soit remis à la justice. La CPI avait lancé un mandat d'arrêt le 15 août à l'encontre de Mahmoud Mustafa Boussaïf al-Werfali, qui serait responsable de la mort de plusieurs personnes dans le contexte du conflit armé en Libye. Fatou Bensouda avait alors exhorté les autorités libyennes à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour procéder à l'arrestation du chef militaire sans plus tarder. L'ancien vice-ministre sud-africain de l'éducation a été reconnu coupable d'avoir agressé deux femmes dans une boîte de nuit à Johannesburg. Mudusi Manana, qui a démissionné du gouvernement après cet incident survenu le 6 août, a plaidé coupable ce mercredi devant un tribunal de la ville, ayant reconnu avoir frappé à coups de pied et de poing deux femmes. Il sera fixé sur sa peine le 7 novembre. Une Kenyane de 14 ans a été inculpée pour meurtre par un tribunal de Nairobi après avoir été accusée d'avoir provoqué un incendie dans un lycée pour filles dans lequel 9 élèves ont péri. La jeune fille a nié être à l'origine de cet incendie survenu le 2 septembre dans un dortoir du lycée Moi à Nairobi. Les corps des 9 lycéennes étaient trop brûlés pour être reconnaissables et n'ont été identifiés que grâce à une analyse ADN qui s'est achevée mardi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a annulé un déplacement à l'Assemblée générale des Nations unies, alors que l'ONU a récemment affirmé que les Rohingyas étaient victimes d'un nettoyage ethnique. Salwa Jafari.
L'indignation est générale. Cette grande manifestation en Inde en est l'exemple. Le mouvement de contestation s'agrandit contre les violences qui ont forcé près de 370 000 Rohingyas du Myanmar à s'exiler au Bangladesh pour fuir une campagne de répression de l'armée birmane. Quelques 60% d'entre eux sont des enfants. L'attaché de presse de la Maison Blanche a d'ailleurs rendu publique la condamnation de Washington. Nous réitérons notre condamnation de ces attaques et de la violence qui en résulte. Sous le feu des critiques pour son silence sur le sort de cette minorité musulmane au pays, l'ex-dissidente et prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, a annulé son déplacement aux États-Unis. La dirigeante birmane s'adressera toutefois la semaine prochaine à la nation au sujet de la crise dans l'ouest du pays. Aung San Suu Kyi va parler de réconciliation nationale et de paix dans une allocution télévisée le 19 septembre, a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement.
La Corée du Nord a annoncé ce mercredi accélérer ses programmes militaires suite aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité après son 6e essai nucléaire. Des experts de l'université Johns Hopkins de Washington ont dit revoir à la hausse leur estimation de la puissance de l'engin testé le 3 septembre. Une bombe H suffisamment petite pour être montée sur un missile selon les dires de Pyongyang. Selon eux, l'énergie dégagée était dans environ 250 kilotonnes, soit 16 fois la puissance de la bombe lancée sur Hiroshima en 1945. Ici aux États-Unis, le bilan s'alourdit en Floride après le passage dévastateur de l'ouragan Irma qui a fait 12 morts et qui abadoue.
Toitures arrachées, arbres déracinés, routes coupées sont encore le lot commun de nombreuses localités de l'État de Floride. Irma a laissé derrière lui des dégâts considérables dans l'archipel des Keys, avec 85% des habitations totalement ou partiellement détruites. C'est là qu'il avait frappé une première fois le territoire de Floride, dimanche matin, avec des vents soufflant à plus de 215 km/h. Alors que la plupart des habitants rentraient constater les dégâts, le porte-parole des services d'urgence de Floride, Alberto Moscoso, a annoncé mardi soir un nouveau bilan de 12 morts. Depuis, les télévisions locales ont fait état de 5 nouveaux décès dans une maison de retraite de Floride suite à une coupure d'électricité survenue depuis le passage de l'ouragan Irma. Plus de 15 millions de personnes sont toujours privées d'électricité, auxquelles s'ajoutent 1 million de personnes dans l'État voisin de Géorgie. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait jeudi en Floride pour constater l'ampleur des dommages.
Et le Téléthon organisé pour les victimes des ouragans Harvey et Irma a permis de lever 44 millions de dollars, selon les organisateurs, précisant que la ligne téléphonique dédiée était toujours ouverte. L'événement a été lancé par une émission d'une heure diffusée mardi soir sur des grandes chaînes américaines et les réseaux sociaux. Des dizaines de célébrités s'étaient mobilisées pour l'occasion, certains prenant directement des appels de donateurs. Et le sénateur américain Bernie Sanders présente ce mercredi une proposition de couverture maladie universelle publique, une idée qui gagne en popularité au sein des démocrates. L'ancien rival d'Hillary Clinton aux primaires en 2016 en avait fait le cœur de son projet de révolution. Madame Clinton avait rétorqué qu'une nationalisation du système de santé était irréaliste. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dilidico.
Appui de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, au comité inter-État de la lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le CILS. D'un montant de 2,15 millions de dollars, ces fonds serviront à renforcer la sécurité alimentaire dans les pays du CILS, rapporte l'agence APA. La Gambie se tourne vers le secteur privé pour protéger ses ressources halieutiques. Ce pays est en pourparlers avec trois compagnies américaines, néerlandaises, sud-africaines, spécialisées dans la fourniture d'équipements de surveillance maritime. Des lacunes dans ce domaine font perdre au trésor gambien quelque 2,3 milliards de dollars par an, selon une étude. Des chalutiers chinois accusés de pêcher sans autorisation dans ces eaux sont régulièrement arraisonnés par les gardes-côtes gambiens. Les entreprises et commerces au Kenya se préparent à un éventuel ralentissement de leurs activités en rapport avec la reprise des élections présidentielles ordonnées par la Cour suprême. Du fait de l'incertitude entourant ce scrutin, les consommateurs kényans sont moins enclins à dépenser leur argent. La stabilité économique du Kenya en avait fait une destination de choix pour diverses multinationales.
Dans les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Suite de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions.
Oui, dans le groupe E, Maribor accueille le Spartak Moscou et à Anfield Road, Liverpool contre le FC Séville. Les Reds corrigés 5-0 ce week-end en championnat devront réagir. Quant à Manchester City, auteur de cette correction, le club se déplace chez le Feyenoord Rotterdam en pleine confiance dans le groupe F. Shakhtar Donetsk face à Naples et dans le groupe G, le champion en titre de France, Monaco, orphelin de Kylian Mbappé, parti au PSG, se rendra en Allemagne pour affronter Leipzig et puis le FC Porto contre Besiktas. Enfin, dans le groupe H, le Real Madrid a la peine en championnat sans Cristiano Ronaldo, suspendu, contrat sur sa star portugaise pour dynamiter la défense de la Poel Nicosie. Autre rencontre, Tottenham face à Dortmund.
Le PSG et le Barça ont démarré fort.
Et oui, le Paris Saint-Germain qui a démarré fort, une victoire 5-0 au Celtic Park de Glasgow. Neymar a marqué, Cavani a fait le doublé et également Kylian Mbappé. Principal adversaire du PSG dans le groupe B, le Bayern Munich a fait le travail contre Anderlecht, jouant durant 80 minutes en supériorité numérique, une victoire 3-0. Autoritaire, Manchester United a réussi son retour en Ligue des Champions en dominant le FC Bâle 3-0, mais Paul Pogba est sorti blessé en début de rencontre. Il pourrait être absent plusieurs semaines. Manchester United prend seul la tête du groupe A, alors que dans l'autre match, le CSKA Moscou a renversé le Benfica de buts à 1. Éliminé en quart de finale l'an passé par la Juventus Turin, le Barça a logiquement dominé le champion d'Italie 3-0 au Camp Nou avec un doublé de Lionel Messi. L'Atlético Madrid a été tenu en échec à Rome 0-0 et laisse à Chelsea large vainqueur de Karabakh 6-0 la première place du groupe D. La dernière rencontre, l'Olympiakos, battu à domicile par le Sporting Portugal, 3-2.
Enfin, sport olympique, pas de suspense à Lima.
En effet, la capitale du Pérou, le Comité international olympique a annoncé sa décision quant à l'attribution sans suspense des Jeux olympiques de 2024 pour Paris et 2028 pour Los Angeles. Il s'agit d'un vote symbolique.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. En Centrafrique, réaction divergente au lendemain de la publication du nouveau gouvernement. Alors que le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandji se félicite de sa nouvelle équipe, certains politiques parlent d'un non-événement. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
La composition de ce gouvernement, 34 ministres dont 5 femmes, importe peu à l'homme de la rue. Ces Centrafricains rencontrés à Bangui attendent plus de cette nouvelle équipe.
Moi, je vois rien. Parce que ce sont les mêmes gens qui restent. Par exemple, au ministère des Finances, du Transport, tout ça, ce sont les mêmes gens. Ces gens qui restent, ce sont des camarades.
Ça, c'est de l'injustice. C'est pas normal. On devait également faire l'honneur, n'est-ce pas, aux femmes centrafricaines.
Pour faire à ce que ce gouvernement puisse satisfaire l'intérêt du peuple pour que le peuple puisse avoir quand même ce qu'il a besoin comme la paix.
Les mouvements syndicaux se veulent prudents et se réservent pour l'instant de toute critique. La plupart voient d'un bon œil le gouvernement Sarandji 2, mais attend de lui le paiement des arriérés du salaire de novembre et décembre 2013. Firmé Paul Zongere, secrétaire général du groupement syndical des travailleurs de Centrafrique.
Mais je pense qu'aujourd'hui c'est le paiement d'arriérés, c'est une réaction personnelle. Je note seulement que les deux mois d'arriérés ne sont pas payés, mais que le nombre de membres du gouvernement s'est allongé. Donc ça veut dire que le gouvernement a les moyens et il peut valablement nous payer nos deux mois.
Pour l'opposant Joseph Bindou, président du MDREC, ce nouveau gouvernement est un non-événement.
On s'attendait vraiment à un remaniement chirurgical, corriger les erreurs de sa première décision, celle de nommer Mathieu Simplice Sarandji Premier ministre de la République centrafricaine. Nous nous sommes retrouvés avec deux professeurs d'université qui ont transformé la République centrafricaine en un grand amphithéâtre où ils s'amusent à développer leur petite théorie. On est allé à 34 ministres pour récompenser qui ?
Les femmes aussi se sentent lésées. Elles dénoncent le non-respect de la loi sur la parité promulguée l'an dernier par le chef de l'État, Nadine Pingamamodo, membre de la société civile.
34, 5 femmes, ça pose problème. Et je pense que toutes les femmes ont le même ressentiment. Celui d'être négligée, celui de ne pas être respectée. Je pense que les femmes ont fait des études dans ce pays.
Cours d'un point de presse ce mercredi à Bangui, le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandji s'est félicité du choix de ses nouveaux collaborateurs, parlant d'un gouvernement de diversité régionale.
Je puis vous dire, sans coup férir, que quasiment toutes les préfectures de notre pays étaient bien représentées dans le dispositif administratif. Sauf quoi, et je le reconnais, c'est la Haute-Koto, c'est la Bakaga, c'est le Bamigui-Bangoua. Ce n'est pas faute, mais on était en train de chercher pour équilibrer dans les nominations à venir comment faire pour trouver les ressortissants de ces préfectures-là. L'effectif ne doit pas nous faire peur. Ce qui est important, c'est le but à atteindre. Il faudrait que tout le monde se retrouve dans le dispositif.
Le président Faustin Conchetouadéra a remanié mardi son gouvernement alors que la situation sécuritaire se dégrade davantage à l'intérieur du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Le franc CFA, à l'origine franc des colonies françaises d'Afrique, a changé de nom plusieurs fois depuis sa création il y a plus de 70 ans. Après les indépendances, des chefs d'État africains ont tenté de rompre, sans succès ou très difficilement, avec la zone franc. Cette monnaie regroupe 14 pays, 8 en Afrique de l'Ouest et 6 en Afrique centrale. Le franc CFA est revenu au devant de l'actualité après sa remise en cause par des intellectuels africains. Le point avec Idriss Fall, notre envoyé spécial à Dakar.
Le débat est relancé depuis l'expulsion de Kémi Séba. Ce franco-béninois a osé brûler un billet de 5000 francs CFA sur une place publique de Dakar au Sénégal. L'économiste Mamadou Dansoro, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Ce débat ne date pas d'aujourd'hui. Il y a les travaux de Osonde Afana et d'autres dans les années 60-70. Dans ce débat, il faut laisser l'émotionnel de côté. Les pays de l'UEMOA ont le franc CFA en commun. Nous devons aller vers la monnaie unique. Est-ce que les pays de l'UEMOA vont sortir collectivement ou est-ce qu'ils vont partir individuellement?
Il y a des pays qui ont déjà tenté l'expérience et généralement ça n'a pas marché.
Pour moi, ce qui importe, c'est l'économie réelle. C'est vrai que quand on n'a pas sa monnaie, un élément essentiel de la politique économique, si vous aviez la monnaie et que l'économie réelle n'est pas forte, qu'est-ce que vous allez faire? Supposons que pour une raison ou pour une autre, l'État doit, par exemple, satisfaire à certaines revendications salariales et autres. C'est pas compliqué, il fait fonctionner la planche à billets. Alors, est-ce que pour autant, l'accès au prix des biens de première nécessité sera au même niveau? Dans la plupart des cas, ça a conduit à l'inflation. Donc, il y aura ce problème. Je suis tout à fait contre la domination de la France, mais on est dans un processus où l'intégration est très avancée. Si chaque pays sort individuellement du franc CFA, de la zone franc, la Côte d'Ivoire sort, le Sénégal sort, etc. Comment ensuite on va reconstituer une monnaie unique face à un pays comme le Nigeria, par exemple?
Je préfère la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage, avait lancé Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée. Son pays sera étouffé économiquement. Le président Modibo Keïta du Mali lui avait emboîté le pas, mais sera victime d'un coup d'État. Et le Mali reviendra dans la zone franc en 1984. La Mauritanie, depuis plus de 40 ans, à sa propre monnaie. Abdourahmane Gaïdé est historien mauritanien à l'université de Dakar.
En 1973, la Mauritanie, au moment de l'apparition des Lougia, je me rappelle très bien que ça a été une grosse fête. Il y avait du nationalisme, a été accompagné par une nationalisation de toutes les entreprises. Je crois aussi qu'il y a un phénomène que les économistes mettent en avant, c'est celui de notre indépendance par rapport à l'ancienne métropole.
Et le débat est encore loin d'être terminé. Depuis Dakar, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Guinée, les métiers de dessinateur et de caricaturiste sont beaucoup plus exercés par les hommes que par les femmes. Bien que le pays ne compte qu'une dessinatrice caricaturiste professionnelle, l'arrivée des filles dans ces métiers se fait remarquer, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
C'est dans son bureau qu'Adjira Touba, journaliste et reporter, accepte de me parler de sa passion pour les dessins, une activité qu'elle exerce à ses heures perdues.
Quand j'avais rien à faire, j'aimais bien dessiner, quoi. Dessiner ce que je vois autour de moi. Et le dessin n'était pas tellement, à une certaine époque, développé chez nous.
Aïssa Toubalde, la seule femme dessinatrice, caricaturiste professionnelle en Guinée, une ambitieuse.
L'objectif, c'est d'être l'une des grandes BDistes du monde et aller, pourquoi pas, ne pas travailler au sein de l'équipe Walt Disney et me lancer aussi dans l'animation.
Et pourtant, Aïssa Tou n'a pas étudié les beaux-arts. La passion lui a presque tout facilité. Dessinatrice, caricaturiste, illustratrice d'articles de presse, elle cherche à faire éditer sa première bande dessinée.
Voici ma bande dessinée, un scénario complet qui n'est pas d'abord édité, qu'on appelle Bélida, le fleuve incarné. C'est à peu près une histoire d'une orpheline qui vivait avec sa marâtre.
À Guinée, peu de filles s'intéressent au dessin et à la caricature. Leur point de vue diffère d'une à l'autre.
Je m'y intéresse, mais pas dans le cadre différent moi-même. Mais seulement parce que je me dis que je n'ai pas cette inspiration. Au lieu de perdre son temps à dessiner, c'est mieux plus qu'à pas lire un journal au moins.
Elles ne s'affirment pas. Elles ne veulent pas sortir de leur timidité. C'est pas qu'elles ne peuvent pas le faire. Elles peuvent bien. mais elles ne s'intéressent pas. Elles disent que oui, ce terrain n'est pas fait pour moi.
Célèbre dessinateur caricaturiste guinéen, Youssouf Ben Barry, surnommé Oscar, est le président de Bouledank, une association qui organise chaque année un festival du même nom.
Au début, on était 5 membres, il n'y avait aucune fille. On a fait le premier concours de dessin et on a détecté la fille Baldé qui a gagné le premier prix en dessin. Et depuis lors, les filles se sont intéressées. Et chaque festival, il y a une vingtaine de filles qui se présentent pour les concours.
36 dessinateurs caricaturistes évoluent au sein de cette association, dont 8 filles, peu par rapport au potentiel féminin, mais important comparé à 0 filles il y a seulement quelques années. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur la crise politique au Togo, marquée par des manifestations de l'opposition et des contre-manifestations du parti au pouvoir. Les opposants dénoncent le projet de loi du gouvernement sur la modification de la constitution et réclament le départ du président Faure Gnassingbé. Que prévoit ce projet de révision constitutionnelle? Les dirigeants, tant de l'opposition que du gouvernement, doivent-ils privilégier le dialogue pour calmer les esprits? Quelle solution voyez-vous pour régler la crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
La Cour suprême américaine a maintenu le décret migratoire du président Donald Trump, bloquant l'entrée aux États-Unis à l'ensemble des réfugiés. Cette décision annule par conséquent un arrêt de la Cour d'appel fédérale de San Francisco qui avait estimé vendredi que les réfugiés déjà approuvés n'étaient pas frappés par ce décret. Eric Manirakiza a joint à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
Tout est gelé. Ça ne veut pas dire qu'ils vont décider du côté gouvernement, du côté réfugié. En général, il faut décider une question très importante. Quels sont les pouvoirs dans des affaires étrangères? Question de visa, réfugié, ça tombe dans le domaine des affaires étrangères. Selon la Constitution des États-Unis, le président des États-Unis est suprême. C'est lui qui dirige, c'est lui qui prend des décisions. La Cour d'appel a dit, mais il y a certaines restrictions quand même. Si des gens ont déjà leur visa, on ne peut pas les empêcher. S'il y a des parents, des gens qui sont déjà aux États-Unis. Donc, c'est une grande question qui doit être décidée par la Cour suprême. Donc, ils n'ont pas donné raison à la présidence des États-Unis. Ils ont déjà seulement dit qu'il faut tout arrêter avant que nous puissions prendre la décision.
Mais c'est une décision qui maintient quand même l'interdiction décidée par l'administration Trump.
Temporairement, ça maintient la décision. Parce qu'on ne peut pas demander à la Cour suprême de prendre une décision après que tout le monde est déjà arrivé aux États-Unis. C'est une question importante. Je crois qu'ils ne vont pas traîner. Ils vont prendre une décision assez rapidement.
Plus de 24 000 personnes avaient déjà été approuvées après un long processus de vérification.
C'est dommage. Ils étaient en bonne foi. Ils ont fait une demande d'aller aux États-Unis. Le gouvernement des États-Unis a fait des enquêtes. Tous ces gens-là ont été approuvés. Donc, c'est vraiment dommage que le président des États-Unis lui-même ne laisse pas entrer aux États-Unis. Mais pendant la campagne, il a dit qu'il faut empêcher tous ces gens qui viennent des pays dangereux, comme l'Iran, etc. Donc, il a des gens qui l'appuient aux États-Unis, qui sont anti-immigrants, anti-réfugiés, anti-islamistes, etc. Donc, lui, il pense à ces gens-là qui ont voté pour lui. Mais je suis d'accord que c'est ridicule de ne pas laisser ces gens-là entrer aux États-Unis tout de suite.
Est-ce que politiquement, c'est gagnant pour Trump ou c'est perdant sur le long terme?
Oh, je crois que politiquement, Trump fait appel aux gens qui vont voter pour lui, c'est-à-dire les gens de la race blanche qui sont dans la classe ouvrière. C'est une question culturelle. Ils ont peur des étrangers. Ils ont peur des gens qui ne parlent pas anglais, etc. Donc, ce sont les gens qui ont voté pour lui. Et donc, Trump continue à envoyer des signaux vers ces gens-là. Écoutez, je me bats pour vous, n'est-ce pas? Mais finalement, je crois que c'est perdant, parce que la grande majorité des citoyens américains ne pensent pas comme lui. Je ne crois pas qu'il peut gagner une prochaine élection s'il continue dans ce chemin.
C'était Herman Cohen à Washington. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma, à la console Rob McLean, à la présentation Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée en compagnie de Henri Francisque pour l'actualité du jour.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.